Bien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Aucouturier, qui enseigne à l'Université Paris 1 et à l'University of Kent. Comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, donc le sujet qu'elle va traiter sera usage de l'analyse conceptuelle chez Hans Combe, l'exemple de l'intention. Je me réjouis particulièrement d'entendre parler à nouveau, je l'avoue, de Miss Hans Combe et de son travail sur le problème de l'intention. Vous avez la parole.
Merci. J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir parce qu'il va être en fait plus question d'action que d'intention dans mon intervention, mais un petit peu d'intention quand même. Donc on caractérise parfois la méthode de Wittgenstein par ce slogan « La signification d'un mot, c'est son usage dans le langage ». Même s'il ne doit pas forcément être appliqué systématiquement, ce slogan suggère que plutôt que de créer des concepts, comme le fait généralement la métaphysique traditionnelle, l'activité philosophique doit se pencher sur le sens de ces concepts tels que nous, les êtres humains, dans une communauté donnée, nous les employons. Étudier le sens d'un mot à travers son usage dans le langage, c'est ce que fait, me semble-t-il, Elisabeth Hans Combe lorsqu'elle propose de se pencher sur le concept d'intention et d'essayer de voir ce dont nous parlons réellement lorsque nous parlons d'intention et que nous ne sommes pas déjà pris dans les visions philosophiques de ce concept, largement imprégnées des théories de la psychologie de la forme, de la phénoménologie et plus récemment de la philosophie des sciences cognitives, marquée notamment par le fonctionnalisme et par le modèle de l'ordinateur. Hans Combe propose, en quelque sorte comme le fait Wittgenstein, un retour à l'ordinaire, aux usages ordinaires non philosophiques de la notion d'intention. Je signale rapidement à ce propos qu'il ne faut pas comprendre cette méthode de l'analyse des usages et du retour à l'ordinaire comme une étude empirique qui consisterait à interroger l'homme de la rue sur le sens qu'il attribue à tel ou tel mot. L'analyse des usages a, du moins dans une perspective wittgensteinienne, une dimension largement théorique. Il s'agit d'étudier la grammaire de notre langage, c'est-à-dire de faire ressortir les règles d'usage de certains mots ou expressions dans le langage. On pourrait dire qu'il s'agit de faire le tri entre des usages corrects, autorisés, et des pseudo-usages, c'est-à-dire des usages abusifs ou incorrects relativement à un usage donné, et notamment relativement à des conventions qui sont plus ou moins explicites dans une communauté donnée. Donc cette identification des usages indus ou incorrects permet aux philosophes de déceler les faux problèmes ou les impostures philosophiques. Un exemple classique d'usage incorrect correspond à ce que Ryle a appelé l'erreur de catégorie. Cette erreur de catégorie consiste à prendre un certain type d'usage d'un mot pour un autre à cause d'une forte ressemblance de forme grammaticale ou syntaxique entre deux expressions. C'est entre autres une certaine erreur de catégorie appliquée aux notions d'action et d'intention que je me propose de prévenir aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les usages que j'ai qualifiés de philosophiques de la notion d'intention, et je suggère ici juste à titre de remarque que le retour à l'ordinaire proposé par Hans Combe permet d'envisager une conception de l'intention distincte des conceptions traditionnellement mentalistes de l'intention comme état interne, privé, insondable du sujet. Donc ce retour à l'ordinaire permet aussi d'envisager une conception de l'action et de son explication qui s'écarte largement et de manière radicale des approches en vogue dans la philosophie des sciences cognitives contemporaines. Donc cependant, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas avant tout la façon dont l'approche qu'on pourrait dire conceptuelle de la philosophie wittgensteinienne permet de critiquer certaines conceptions mentalistes de l'intention, et pour le dire rapidement, causaliste ou déterministe de l'explication de l'action. Mais je vais m'intéresser à un versant beaucoup plus positif, on pourrait dire, de l'approche hanscombienne de l'action. Et la question principale que je souhaiterais poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'une action, et plus précisément, comment doit-on, en philosophie, traiter les objets, intentions et actions. Donc en abordant le problème de cette façon, j'espère pouvoir montrer non pas la fidélité exégétique de la philosophie d'Hans Combe à celle de Wittgenstein, mais plutôt, à travers sa mise en pratique par Hans Combe, la fécondité philosophique de la méthode de l'analyse conceptuelle. Je vais ainsi montrer en quoi Hans Combe parvient à combiner l'idée selon laquelle intention et action sont avant tout des objets formés, construits dans le langage et par la pratique, et en quoi il se rapporte cependant à des réalités concrètes, à ce qui se passe dans le monde. Quand je dis que les concepts d'action et d'intention sont formés dans le langage et par la pratique, j'entends par là une forme d'indissociabilité du langage et de la pratique, qu'on trouve en particulier chez le second Wittgenstein, notamment à travers l'image du langage et de ses mots comme des outils, nous permettant de faire et de dire des choses. Ma présentation se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, je vais examiner l'idée d'Anscombe selon laquelle une action est intentionnelle sous une description et peut recevoir plusieurs descriptions. Et cela me conduira à introduire la façon dont certains de ses lecteurs, Davidson en particulier, ont mal interprété cette remarque. J'essaierai ainsi de montrer pourquoi l'action comme objet d'enquête philosophique ne doit pas être conçue comme un objet d'étude unifié et préfabriqué, déjà là tel quel, ready-made, comme le dit Austin, et que nous pourrions nous contenter d'observer et de décrire. Je voudrais justement montrer que si la philosophie veut se donner un tel objet d'étude, sa tâche première, et peut-être son unique tâche, est de voir ce qui, dans nos pratiques, notamment linguistiques, fait ce qu'on pourrait appeler l'identité d'une action. Donc sa tâche première est de mettre au jour ce qui nous autorise à qualifier quelque chose d'action. Les cas dans lesquels nous parlons à bon droit de quelque chose comme d'une action. Autrement dit, les règles d'usage de la notion d'action. On verra dans un même temps de quelle façon la notion d'intention se greffe naturellement sur celle d'action et en quoi ces deux notions sont extrêmement liées conceptuellement. Cet examen devrait me conduire à l'idée que l'identification de l'action se fait principalement, pour ne pas dire exclusivement, par sa description. Dans un deuxième temps, j'aimerais répondre à une objection qui s'impose face à une telle vision de l'action comme objet dont l'identification dépend de la description. Il s'agit de l'objection d'idéalisme linguistique. Je voudrais donc me positionner en réponse à l'objection selon laquelle la conception de l'action que je vais vous présenter conduit à penser que ces deux choses ne seraient pas réelles ou n'auraient pas de l'action et de l'intention, pardon. Conduit à penser que ces deux choses ne seraient pas réelles ou n'auraient de réalité que purement linguistique. Car si l'objection d'idéalisme linguistique est vraie, la conception philosophique de l'action que je préconise conduirait à l'idée contre-intuitive selon laquelle, si par exemple je tue quelqu'un, je n'ai effectué une action que dans la mesure où elle peut être dite dans le langage. Si l'objection vaut, d'après notre vision de l'action, sans langage, il n'y aurait pas d'action. Et je suis, dans une certaine mesure, prête à endosser cette idée, mais pas dans n'importe quel sens. Au début de son enquête sur l'intention, Anscombe commence par se demander quelle méthode employer pour étudier un tel objet en philosophie. Et elle rejette rapidement deux types d'approches. L'approche psychologiste, qui consisterait à se demander de quoi l'expression d'intention est-elle l'expression, et donc à étudier ce qu'on pourrait appeler l'intention elle-même, distincte de ses expressions ou manifestations. Et la deuxième approche qu'elle rejette est l'approche purement conceptuelle, qui consisterait à n'étudier que les expressions d'intention elles-mêmes dans leur singularité et indépendamment d'un contexte dans lequel elles prennent sens et d'une forme de pensée dont elles sont dépendantes. Le rejet de ces deux méthodes a vraisemblablement un fondement wittgensteinien. Lorsqu'elle rejette l'étude des intentions pures, Anscombe refuse de centrer son enquête sur un objet purement mental et subjectif. Elle juge ce type d'enquête obsolète dans la mesure où, si notre objet est purement interne et subjectif, on ne peut jamais véritablement s'assurer de ce dont on parle et si on parle bien de la même chose. On retrouve le fameux problème du scarabée dans la boîte noire. On voit poindre ici également le rejet de l'idée d'un donné pur de l'intention qu'on pourrait étudier empiriquement, totalement indépendamment du domaine conceptuel des usages de la notion d'intention. Anscombe refuse d'autre part donc de centrer son enquête sur une analyse purement conceptuelle, dans la mesure où, au fond, les concepts, les expressions que nous employons, ne vivent pas et ne peuvent faire sens indépendamment de leurs usages, c'est-à-dire plus largement de pratiques. Autrement dit, elle refuse une forme de behaviorisme, on pourrait dire conceptuel, et qui consisterait à penser qu'il n'y a rien d'autre que des mots et des comportements, et qu'en analysant de pures expressions d'intention, nous pourrions comprendre ce qu'est une intention. La différence entre la méthode de l'analyse conceptuelle rejetée par Anscombe et le behaviorisme, au sens plus large, rejeté par Wittgenstein, consiste en cela que Anscombe ne rejette pour le moment que l'analyse d'expression, et ne mentionne pas vraiment la question des comportements. C'est une parenthèse. Mais au fond, le rejet se fait pour les mêmes raisons. On ne peut étudier une expression d'intention, voire même on ne peut considérer une expression verbale comme étant une expression d'intention, que dans la mesure où elle prend place au sein d'un contexte particulier et dans un cadre sociolinguistique particulier. C'est ainsi qu'on peut distinguer « je vais rater mon examen demain » comme étant à une occasion donnée l'expression d'une prédiction et à une autre occasion l'expression d'une intention de rater son examen. Et la différence entre les deux ne se trouve pas dans l'expression elle-même, mais dans le contexte de l'expression. En quoi donc va consister l'analyse conceptuelle au sens de Hans Kohn, et on pourrait dire au sens wittgensteinien selon une certaine interprétation? Il va s'agir de déterminer ce que nous dirions quand, comme le dirait Austin, c'est-à-dire les normes implicites qui règlent la signification, la compréhension, le sens d'une expression. Ce qu'Hans Kohn caractérise dans son analyse des raisons d'agir comme les limites de l'intelligibilité. Et je la cite. Des réponses comme « sans raison particulière »,« j'ai juste eu envie de le faire », etc. sont souvent tout à fait intelligibles, parfois étranges et parfois inintelligibles. Si quelqu'un partait à la recherche de tous les livres verts de la maison et les étalait avec soin sur le toit, tout en donnant l'une de ses réponses à la question « pourquoi ?» sous-entendu « pourquoi fais-tu cela ?», ces mots seraient inintelligibles, sauf dans le cas d'une farce ou d'une mystification. Ils seraient inintelligibles, non parce qu'on ne saurait pas ce qu'ils signifient, mais parce qu'on ne comprendrait pas ce que cette personne voulait dire en les disant dans cette situation. Dans cette volonté de tracer de façon plus ou moins approximative les limites du sens et de l'inintelligible, le wittgensteinien et le philosophe du langage ordinaire, me semble-t-il, se rejoignent du point de vue de la méthode. Et je cite à nouveau Hans Kohn, « Je me tourne donc vers une nouvelle ligne d'enquête. Comment faisons-nous pour dire ce que sont les intentions de quelqu'un ? Ou quel genre d'énoncé vrai peut-on faire avec certitude sur les intentions des gens, et comment savons-nous qu'ils sont vrais ? Eh bien, si vous voulez dire quelque chose d'à peu près exact sur les intentions de quelqu'un, une bonne manière d'y arriver sera d'indiquer ce qu'il a effectivement fait ou ce qu'il est en train de faire. En effet, quoi qu'il ait l'intention de faire par ailleurs, ou quelles que soient ses intentions en faisant ce qu'il fait, la plupart des choses dont vous diriez d'emblée qu'il les a fait ou qu'il les a faites, sont les choses qu'il avait l'intention de faire. Qu'il les fait, pardon, qu'il les a faites, sont des choses qu'il avait l'intention de faire. Pour ce qui est de l'intention, Hans Kohn s'intéresse donc non pas aux expressions d'intention, ni même aux phrases dans lesquelles figurerait le mot intention, mais elle s'intéresse au domaine de pratique et d'action qu'ordinairement nous qualifierions d'intentionnel. Elle remarque dès lors que le concept d'intention ou d'intentionnel est intimement lié à la catégorie de ce qu'on appelle action. Même si, et ceci est selon moi crucial, elle ne pense pas que les deux catégories se confondent ou encore qu'une action soit nécessairement intentionnelle. Donc, sans entrer dans le détail des distinctions qu'elle effectue entre l'expression d'intention précédant l'action, l'intention dans l'action et l'action intentionnelle, je vais brièvement vous les résumer. En philosophie de l'action, chez Searle ou chez Davidson par exemple, on distingue généralement l'intention qui précède l'action, prior intention, de l'intention dans l'action. En gros, l'intention qui précède l'action est l'intention qu'on exprime parfois ou à laquelle on pense parfois avant d'agir. Cette intention peut quelquefois juste précéder l'action qui la réalise, comme lorsque je dis ou pense sur le pas de la porte « je vais me promener », ou alors elle peut être bien antérieure à l'action qui la réalise, voire ne jamais être réalisée, comme par exemple lorsque je dis ou pense « après ma thèse, je vais prendre quelques semaines de vacances ». On identifie généralement l'intention qui précède l'action d'après son expression, qu'elle soit verbale ou non. On peut généralement la distinguer de l'intention dans l'action ou de l'action intentionnelle, en ce que le processus de sa réalisation n'est pas encore enclenché. Donc c'est pourquoi Hans Kohn parle simplement d'une expression d'intention. L'intention dans l'action est, pour le dire simplement, l'objectif de notre action. L'intention qu'on a en faisant quelque chose. Intention in doing. Je fais bouillir de l'eau pour faire du thé. Je ramasse du bois pour faire du feu. Autrement dit, l'intention dans l'action, c'est ce vers quoi tend notre action présente. C'est, pour le dire encore autrement, la raison ou une des raisons pour lesquelles on effectue telle ou telle action. Et l'action intentionnelle, qui est le troisième usage d'intention retenu par Hans Kohn, désigne l'action qu'on effectue intentionnellement, c'est-à-dire simplement à dessein. C'est notre intention de faire X, intention of doing, qu'on peut distinguer de l'intention qui est à distance, pour reprendre l'expression d'Anscombe, c'est-à-dire l'intention qu'on a en faisant X. Par exemple, lorsque je fais bouillir de l'eau pour faire du thé, on peut dire que mon action de faire bouillir de l'eau est intentionnelle. J'ai bien l'intention de faire bouillir de l'eau. Et en le faisant, j'ai l'intention de faire du thé. Intention dans l'action. Bien sûr, on peut dire que mon action de faire du thé est aussi une action intentionnelle. Intention dans l'action et action intentionnelle ne sont pas exclusivement distinctes. Donc, j'ai dit plus haut que Anscombe ne s'intéressait pas en priorité, pour des raisons méthodologiques que j'ai présentées brièvement, aux expressions d'intention ou encore à ce que Davidson, par exemple, a appelé les intentions pures, c'est-à-dire les intentions formulées et non réalisées. Elle estime en effet que, malgré l'intuition pressante selon laquelle une intention serait une chose purement interne, à laquelle seul le sujet aurait un accès direct et privilégié, ce n'est pas en menant des recherches sur quelque chose qui n'existerait que dans la sphère de l'esprit qu'on obtiendra des résultats intéressants. Et ce, pour la simple et bonne raison, que j'ai déjà donnée, que par définition, cette chose purement spirituelle n'offrirait pas d'accès objectif, à elle-même, et par conséquent, nous ne pourrions rien en dire. C'est pourquoi, compte tenu de cette impasse et du lien étroit noté entre action et intention, Anscombe préconise de s'intéresser en priorité à ce qu'un homme fait effectivement, c'est son expression, pour apprendre quelque chose des intentions. Je vais m'arrêter là pour les considérations d'ordre méthodologique. Et maintenant, je vais m'intéresser à la proposition d'Anscombe selon laquelle parler d'intention se rapporterait à une forme de description de l'action. Cette proposition fait référence à une des thèses les plus connues d'Anscombe et peut-être aussi la plus mal comprise par les commentateurs, comme Davidson notamment, et surtout Goldman qui a attribué à Anscombe exactement la même thèse que celle de Davidson. Il s'agit de la thèse de la pluralité des descriptions de l'action et de l'idée selon laquelle une action pourrait recevoir plusieurs descriptions et donc être intentionnelle sous une description et pas sous une autre. Pour reprendre l'exemple le plus parlant de Anscombe à ce propos, imaginons que John est en train de scier une planche pour construire une cabane à oiseaux, mais que John ignore que la planche qu'il est en train de scier appartient en réalité à Smith, son voisin. Sous la description « John scie une planche », l'action est intentionnelle. Sous la description « John scie la planche de Smith », l'action n'est pas intentionnelle. John ne peut être en train de scier intentionnellement la planche de Smith dans la mesure où il ignore que la planche qu'il scie est celle de Smith. En revanche, il scie bien cette planche intentionnellement. Donc une première remarque serait la suivante. Si l'on revient à l'idée que j'ai mentionnée précédemment, à savoir celle selon laquelle la plupart du temps, lorsque je dis ce que fait quelqu'un, je donne au moins une de ses intentions. On constate que cette idée fonctionne approximativement, mais pas toujours, puisque non conscient de l'ignorance de John, quelqu'un pourrait par erreur lui attribuer l'intention d'être en train de scier la planche de Smith. Deuxième remarque, on voit bien dans le cas présent que toute action n'est pas intentionnelle, puisqu'on peut s'accorder sur l'idée que John scie la planche de Smith est bien une action, mais que sous cette description, ce n'est pas une action intentionnelle. Nous faisons par ailleurs un nombre considérable de choses sans les faire intentionnellement. Contrairement à ce que beaucoup de philosophes de l'action semblent penser, Searle ou Davidson même par exemple, le caractère intentionnel ne permet pas de discriminer le champ de l'action. Action n'équivaut pas à action intentionnelle. Davidson est d'accord là-dessus, mais il a une vision un peu particulière. Dire que l'intention renvoie à une forme de description de l'action fait partie de l'idée qu'une action peut être intentionnelle sous une description. Et c'est justement cette expression « sous une description » qui a souvent été mal comprise par les commentateurs et surtout par les continuateurs d'Anscombe, comme donc Davidson ou Goldman. Davidson a notamment eu une influence considérable sur l'interprétation qu'on donne souvent de cette remarque d'Anscombe. Et cette dernière a d'ailleurs, pour se défendre de ses interprétations erronées, écrit un article en 1979 qui s'intitule « Under a Description » et qui est souvent ignoré par la littérature. L'idée présentée tout à l'heure à travers l'exemple de la planche de Smith, selon laquelle une action peut être intentionnelle sous une description et pas sous une autre, donne lieu dans l'intention, le livre d'Anscombe, à la remarque plus générale selon laquelle une même action pourrait recevoir plusieurs descriptions, ou encore selon laquelle il y aurait une multiplicité de niveaux de description de l'action humaine. Un exemple illustre ce point, un exemple assez connu. Il s'agit de celui de l'homme qui pompe de l'eau empoisonnée dans la citerne qui alimente une maison dont les habitants sont des nazis. Je cite l'exemple d'Anscombe. Un homme pompe de l'eau dans la citerne qui alimente une maison. Quelqu'un a trouvé le moyen de contaminer systématiquement la source avec un poison mortel qui agit de façon cumulative et tel que les effets ne se manifestent que lorsqu'il est trop tard pour les soigner. Le bras de l'homme fait des mouvements de haut en bas. Certains muscles, au nom latin connu des seuls docteurs, se contractent et se relâchent. Certaines substances sont produites dans des fibres nerveuses, substances dont la production au cours d'un mouvement retient l'attention des physiologistes. Le bras envoie une ombre sur un rocher, si bien qu'à un certain endroit, lorsqu'il arrive à une certaine position, il produit un effet curieux, comme si un visage sortait du rocher. De plus, la pompe fait une série de cliquetis au rythme remarquable. À partir de cette liste de descriptions de ce qui se passe, Anscombe se demande ce qu'il faut dire de l'action de cet homme. De quelle action s'agit-il ? Pour répondre à cette question, on pourrait, selon elle, donner n'importe quelle description effectivement vraie de ce qui se passe avec cet homme pour sujet. On pourrait donc, à loisir, allonger la liste des descriptions en disant que cet homme gagne son salaire, subvient aux besoins d'une famille, use les semelles de ses chaussures, remue de l'air, ou encore qu'il bouge son bras, actionne la pompe, remplit la citerne, empoisonne les habitants, etc. Je vais m'arrêter un instant sur deux questions qui sont soulevées par cette remarque de la pluralité des descriptions d'une action. Tout d'abord, nous avons les moyens de distinguer les descriptions qui rendent compte de ce qui se passe comme étant une action et celles qui rendent compte de ce qui se passe comme étant un événement sans agent. Soit certains phénomènes ne sont généralement pas considérés comme relevant de l'agentivité, et la question de savoir si ce sont des actions ne se pose pour ainsi dire pas. C'est le cas par exemple de la production de substances dans les fibres nerveuses qui, dit Anscombe, intéresse le physiologiste. Soit cette distinction se fait dans des circonstances données qui permettent de déterminer si l'agent présumé est bien à l'origine de l'action qu'on lui attribue. On peut voir par exemple si ce sont bien les mouvements de notre homme qui projettent l'ombre d'un visage sur le rocher. Pour suivre Anscombe, on peut en général parler d'action dans les cas où il est possible de demander à l'agent présumé pourquoi il fait ceci ou cela. Donc la simple possibilité de poser cette question rend compte du fait qu'on est déjà dans le cadre d'une description de ce qui se passe comme d'une action. Puisqu'on envisage alors que l'agent est à même de rendre des comptes sur ce qu'il fait, c'est-à-dire de donner des raisons. Ensuite, deuxième question, deuxième remarque, il se peut que l'agent présumé nie qu'il est en train de faire ceci ou cela. Comme dans le cas de Smith, notre homme peut ignorer qu'il projette cette ombre sur le rocher ou que l'eau qu'il pompe à la citerne est empoisonnée. Et ceci ne signifie pas nécessairement que nous ne sommes pas en droit de dire qu'il fait ces deux choses, qu'il projette une ombre sur le rocher et qu'il empoisonne les habitants. Ceci signifie simplement que dans ce cas-là, il ne fait pas ces deux choses intentionnellement. Autrement dit, Anscombe remarque qu'en fonction de la réponse ou des réponses que l'agent présumé donne ou pourrait donner à la question « Pourquoi fais-tu ceci ou cela ?», on va pouvoir déterminer si l'action considérée sous telle ou telle description est intentionnelle. Lorsque l'agent donne une ou plusieurs raisons pour lesquelles il fait ceci ou cela, ou qu'il exprime simplement son désir ou son intention de le faire, alors on peut considérer que c'est une action intentionnelle. En bref, la possibilité de poser la question « Pourquoi ?» à l'agent permet en gros de voir dans un contexte donné qu'on a affaire à une action, et la réponse que donne ou que pourrait donner l'agent à cette question permet de déterminer si son action ou non est intentionnelle. Est intentionnelle ou non. Il y aurait ici donc beaucoup de distinctions à introduire, entre par exemple l'action volontaire, intentionnelle, involontaire, etc. Mais ce n'est pas l'objet direct de mon exposé. Ce qui m'intéresse en revanche dans ces remarques, c'est l'idée que ce qui se passe renvoie à plusieurs descriptions aussi varié que « il actionne la pompe » ou « certaines substances sont produites dans ses fibres nerveuses ». Plus précisément, c'est l'idée qu'en fonction de la description, on va concevoir ce qui se passe comme étant ou non une action. Autrement dit, à première vue, l'identification de l'action passe par sa description. Et cette idée fait surgir un certain nombre de questions, comme « Y a-t-il une bonne description de l'action ?» Ou encore « L'homme qui bouge intentionnellement son bras, actionne la pompe, remplit la citerne, empoisonne les habitants, accomplit-il 4 actions ou bien une seule ?» À la première question, Hans Combe a répondu, on l'a vu, que toute description vraie de ce qu'un agent fait ou a fait comptera comme une bonne description. L'intérêt de la description dépendra ensuite simplement des objectifs qu'on a en la faisant et de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. À la seconde question, c'est celle qui va retenir mon attention, puisque c'est précisément cette question qui a été mal interprétée, notamment par Davidson et par certains autres philosophes, qui se sont, à partir de Davidson, emparés du débat. Donc à la question, je répète la question, l'homme qui bouge intentionnellement son bras, actionne la pompe, remplit la citerne, empoisonne les habitants, accomplit-il 4 actions ou bien une seule ? Hans Combe répond que cet homme accomplit une action sous 4 descriptions. On est bien sûr tenté de dire qu'activer une pompe, ce n'est pas à proprement parler la même action qu'empoisonner les habitants ou que bouger son bras. En effet, en fonction des objectifs que va servir la description, notamment s'il s'agit de juger cette action au tribunal, ces 4 descriptions ne sont pas interchangeables. Car du point de vue moral et légal, actionner une pompe, ce n'est pas la même chose qu'empoisonner les habitants d'une maison. Cependant, Hans Combe met ici le doigt sur quelque chose d'important. S'il est crucial de pouvoir distinguer ces 4 descriptions en fonction des objectifs qu'on a en décrivant l'action, il est tout aussi important de pouvoir dire que, dans les circonstances présentes, actionner la pompe et remplir la citerne, c'est empoisonner les habitants. Car en actionnant la pompe, notre homme empoisonne bien les habitants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homme qui actionne la pompe peut être tenu responsable de la mort des habitants de la maison. Si on ne pouvait, dans des circonstances données, identifier la chaîne causale qui va de l'actionnement de la pompe à l'empoisonnement des habitants, si l'on devait nécessairement considérer ces descriptions comme indépendantes les unes des autres, alors on ne pourrait peut-être pas dire que l'homme a empoisonné les habitants, car il n'aurait au fond qu'actionné la pompe. Ainsi, lorsqu'Hans Combe dit que dans ces circonstances, bouger son bras, c'est actionner la pompe, c'est remplir la citerne et c'est empoisonner les habitants, et qu'on a affaire à une même action sous différentes descriptions, elle met l'accent à nouveau, comme je l'ai précisé lors des remarques sur sa méthode, sur le fait qu'une description ne peut être prise isolément des circonstances qu'elle décrit. Ainsi, si on peut dire que, prise isolément du point de vue de leur sens ou de ce dont elle parle, les descriptions « actionner la pompe » et « empoisonner les habitants » ne désignent pas la même action, dans les circonstances de notre exemple, elles désignent bien la même action. Cette idée selon laquelle on peut concevoir une même action sous diverses descriptions a fait l'objet, je vous l'ai dit, de nombreux débats sur ce qu'on a appelé, à la suite de Hans Combe et Davidson, la question de l'individuation de l'action. Alors, je vais vous donner des citations de Davidson qui ressemblent étrangement à ce que dit Hans Combe. J'appuie sur l'interrupteur, j'allume la lumière et éclaire la pièce. J'avertis aussi à mon insu un rôdeur que je suis rentré à la maison. Je n'ai pas besoin ici d'avoir fait 4 choses, mais seulement une dont je vous ai donné les descriptions. Une autre citation de Davidson. J'écris mon nom sur un morceau de papier. J'écris mon nom sur un morceau de papier dans l'intention de faire un chèque. Je paie mes dettes de jeu. Il est difficile d'imaginer comment on peut avoir une théorie de l'action cohérente si l'on ne dit pas que chacune de ces phrases est rendue vraie par la même action. À lire ces passages, il semble bien que Hans Combe et Davidson s'accordent. Cependant, Davidson fait un pas supplémentaire dans l'argumentation qui a été aussi attribué à tort à Hans Combe. Et ce pas supplémentaire consiste à penser que pour comprendre la notion d'une même action qui rendrait vraie chacune des descriptions, on doit trouver un critère ontologique permettant d'identifier les unes aux autres les descriptions sous lesquelles cette même action est décrite. Autrement dit, il faudrait un critère permettant d'identifier ontologiquement l'événement ou l'action qui rend toutes ces descriptions vraies. La version davidsonienne de la thèse de la pluralité des descriptions de l'action prend ainsi la forme d'une thèse d'identité. Je cite à nouveau Davidson. « Mais quelle est la relation entre pointer le revolver et appuyer sur la gâchette et tirer sur la victime ?» La réponse naturelle est, je pense, correcte, et que cette relation est une relation d'identité. Pour Davidson, donc, dire que A, B, C et D sont 4 descriptions d'une même action revient à dire que, ontologiquement, A égale B égale C égale D. C'est-à-dire que A, B, C et D doivent se référer au même événement. L'événement qui est censé rendre les descriptions A, B, C, D simultanément vraies. Voici comment il exprime cette idée. Je le cite à nouveau. « Il se passe des choses étranges. Jones l'a fait lentement, délibérément, dans la salle de bain avec un couteau à minuit. Ce qu'il a fait, c'est beurrer un toast. Le langage de l'action nous est trop familier pour que cette anomalie ne nous frappe pas immédiatement. Le L' de Jones l'a fait lentement, délibérément, semble faire référence à une certaine entité, vraisemblablement une action, qui est alors caractérisée de multiples façons. Davidson estime, et c'est le point de départ de sa grammaire logique des phrases d'action, que je ne vais pas développer ici, qu'il faut trouver un critère d'individuation des événements. Et il conçoit les actions comme une sous-classe d'événements assez définie, décrite de la manière spécifique suivante. C'est encore Davidson. Peut-on dire à présent quels événements impliquent une agentivité ? Je suis agent si je verse le café en voulant verser le thé, mais pas si vous secouez ma main. Quelle est la différence ? La différence semble reposer dans le fait que dans un cas et pas dans l'autre, je fais quelque chose intentionnellement. Je pense ainsi avoir la réponse correcte à notre problème. Un homme est l'agent d'un acte si ce qu'il fait peut être décrit sous un aspect qui le rend intentionnel. Une personne est l'agent d'un événement si et seulement si il existe une description de ce qu'il a fait qui rend vrai une phrase disant qu'il l'a fait intentionnellement. On aboutit donc chez Davidson à une conception de l'action comme type d'événement pouvant être décrit d'une certaine façon, à savoir un événement dont on peut donner une description sous laquelle il est lié à une intention. Et grâce à cette caractérisation de l'action comme type d'événement, Davidson peut expliquer, peut appliquer à l'action son ontologie des événements développée dans les mêmes années que sa philosophie de l'action. Selon lui, un événement est avant tout quelque chose qui se passe dans le monde et qui a une certaine durée, comme par exemple la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 ou la dernière fête d'anniversaire d'Adèle. Or, il ajoute que, bien que le critère de l'agentivité soit intentionnel, au sens sémantique du terme, l'expression de l'agentivité est elle-même purement extensionnelle. Je cite Davidson. Donc je répète, bien que le critère de l'agentivité soit intentionnel au sens sémantique du terme, l'expression de l'agentivité est elle-même purement extensionnelle. Donc il y a, selon Davidson, une certaine opacité sémantique ou une intentionnalité sémantique des attributions d'intention. Je vais, pour illustrer ça, rappeler l'exemple de la planche de Smith. Donc Jones peut bien intentionnellement scier une planche appartenant à Smith sans pourtant scier intentionnellement la planche de Smith. Simplement parce qu'il ignore que la planche qu'il scie appartient à Smith. C'est en ce sens que le critère d'attribution d'une agentivité à un agent est intentionnel au sens sémantique du terme, d'après Davidson. Il dépend de la possibilité d'une description de ce que fait l'agent sous laquelle ce qu'il fait est intentionnel. En revanche, l'expression de l'agentivité serait quant à elle purement extensionnelle. Autrement dit, l'action est en ce sens un type d'événement indépendamment de la façon dont il est décrit. Que cet événement soit une action dépend seulement du fait de la relation entre une personne et un événement, et son action. Je cite à nouveau Davidson. La relation qui se tient entre une personne et un événement, lorsque cet événement est une action effectuée par cette personne, se tient indépendamment de la façon dont les termes sont décrits. Ainsi, on peut sans confusion parler de la classe des événements qui sont des actions, ce qu'on ne peut pas faire avec les actions intentionnelles. Ainsi, même si ce qui permet d'identifier une agentivité, c'est la possibilité de décrire ce qui est fait par l'agent comme une chose faite intentionnellement sous une description, ce qui est fait appartient à la classe des actions indépendamment de la description qu'on en donne. Donc selon cette conception, être quelque chose, une action, sous une certaine description, exige donc que ce quelque chose soit identifiable en extension, indépendamment de sa description. Dans une perspective davidsonienne, si l'on peut concevoir une même action sous diverses descriptions, on doit pouvoir identifier cette même action ontologiquement, indépendamment de ces diverses descriptions. Ce qu'on doit donc chercher pour identifier cette même action n'est pas une description, mais l'événement lui-même, l'action à laquelle ces descriptions se réfèrent et qui les rend identiques. Pour rendre compte du fait que ces descriptions sont toutes vraies d'une même action, on devrait donc quitter le domaine de la description et entrer dans celui séparé de l'ontologie. Avec une telle ontologie de l'action, Davidson court le risque de tomber dans les objections du type de celles soulevées par Thompson, Judith Jarvis Thompson. Je reformule l'objection, mais l'objection est la suivante. Si je pompe l'eau de la citerne pour empoisonner les habitants de la maison et que ces derniers ne boivent de l'eau que le lendemain et n'en meurent que le surlendemain, si d'autre part ce n'est pas la description de l'action qui permet de l'identifier, mais un élément ontologique, alors il semble que lorsque je pompe l'eau de la citerne, je ne suis pas encore en train d'empoisonner les habitants. Et lorsque ceux-ci boivent l'eau, je ne suis probablement plus en train de pomper. Il ne s'agit donc plus du même événement, alors que c'est ce que voudrait Davidson. Donc en dehors d'une description du type H a empoisonné les habitants, notre homme a empoisonné les habitants, on pourrait dire qu'il y a là plusieurs événements distincts. L'espace temporel dans lequel je pompe, celui dans lequel ils boivent l'eau et celui dans lequel ils meurent. On a en effet du mal à voir comment compter les événements d'un point de vue purement ontologique, indépendamment de toute description. En réponse à cette objection, Davidson essaie de combiner l'idée d'Anscombe que j'ai évoquée tout à l'heure, selon laquelle, dans des circonstances données, activer la pompe, c'est empoisonner les habitants, c'est les tuer, etc. Donc il essaie de combiner cette idée des circonstances, de l'importance des circonstances, avec l'idée selon laquelle les conséquences causales naturelles d'une action ou d'un mouvement ne sauraient se distinguer de l'action elle-même. Il n'y a pas pour Davidson de niveau primitif de l'action qui la réduirait au mouvement physique de l'agent, par exemple. Pour lui, dans la mesure où un geste s'inscrit dans une chaîne causale naturelle, ce geste et ses conséquences se confondent pour ne former qu'un seul événement, l'action. Je vais le citer pour clarifier ça. Je pense que des difficultés considérables font obstacle à la considération de ces actions variées, les actions primitives comme celle de bouger une main, et les actions que nous décrivons en référence aux conséquences comme distinctes numériquement. Cette remarque implique qu'une action n'est pas telle simplement en vertu du mouvement de l'agent, mais aussi en vertu de ses conséquences. Simplement, ces conséquences sont intégrées à l'événement action, non pas en vertu, comme le suggère Anscombe, d'une certaine normativité de l'action, en vertu du fait, par exemple, qu'elles sont visées ou non par l'agent, mais ces conséquences sont intégrées à l'action en vertu d'une causalité naturelle, parce qu'elles sont naturellement engendrées par le mouvement de l'agent. Donc, selon Davidson, je le cite à nouveau, cette profusion de descriptions liées correspond à un seul descriptum. Nos actions primitives, celles que nous ne faisons pas en faisant autre chose, les simples mouvements de notre corps, celles-ci sont toutes les actions qu'elles sont. Nous ne faisons jamais rien de plus que de bouger nos corps, le reste dépend de la nature. De ce point de vue, ce qui fait l'unité ontologique d'une même action, c'est un ensemble naturel de causes et d'effets. En d'autres termes, Davidson soutient qu'une action, en tant qu'elle appartient à une classe d'événements pouvant recevoir diverses descriptions, fait tout autant partie du monde naturel que, par exemple, un tremblement de terre ou une avalanche. Or, je vais maintenant revenir sur ce qu'Anscombe entend, elle, lorsqu'elle dit qu'une unique action peut avoir plusieurs descriptions différentes. Avant donc que cette affirmation n'ait été dénaturée par le passage à l'idée davidsonienne, selon laquelle, si c'est le cas, il doit y avoir une certaine entité, vraisemblablement une action, qui est alors caractérisée de multiples façons. Ou encore l'idée davidsonienne, selon laquelle il doit y avoir un événement correspondant qui rend vrai en même temps chacune de ces descriptions. En réalité, chez Anscombe, la question de la pluralité des descriptions ne soulève pas de problème métaphysique, ni ne suggère un positionnement ontologique spécifique quant à la nature ou à l'identification de l'action. Anscombe estime, comme Austin, que ce type de questionnement est égarant. Je la cite. « J'ai en certaines occasions lancé un regard hébété lorsqu'on me demandait « Si une action peut avoir plusieurs descriptions, quelle est l'action qui a toutes ces descriptions ?» Il semblait que la question était censée vouloir dire quelque chose, mais je ne pouvais saisir de quoi il s'agissait. La réponse appropriée à « Quelle est l'action qui a toutes ces descriptions ?» consiste à donner une de ces descriptions. D'une certaine façon, il n'y a pas, pour Anscombe, d'action en dehors de ça ou de ces descriptions. Sans être un objet purement linguistique, puisque c'est quelque chose qui se passe, l'action n'est pas pour autant une entité, un objet ontologique indépendant de notre langage. Comme le remarque Austin, prendre la notion d'action comme une description auto-explicative et primitive, désignant une chose, un objet empirique tout fait, c'est tomber dans le mythe du verbe, dans la croyance qu'un faire serait quelque chose qu'on trouve dans le monde, indépendamment de tout langage. Et là, je vais citer assez longuement Anscombe, parce qu'il me semble que cette citation est importante. Et elle fait un parallèle assez intéressant. « Bien entendu, nous nous intéressons tout spécialement aux actions humaines. Mais dans ces actions, à quoi nous intéressons-nous? Ce n'est certes pas au mouvement des molécules d'un être humain. Ce n'est même pas au mouvement de certains corps, les corps humains. La description de ce qui nous intéresse est un type de description qui n'existerait pas si notre question « pourquoi » n'existait pas. Ce n'est pas que certaines choses, à savoir les mouvements des humains, sont, pour des raisons que nous ignorons, sujets à la question « pourquoi ». De même, ce n'est pas simplement que certaines apparences de craie sur le tableau sont sujettes à la question « qu'est-ce que cela dit ?» C'est au sujet d'un mot ou d'une phrase que nous demandons « qu'est-ce que cela dit ?» Et la description de quelque chose comme un mot ou une phrase ne pourrait pas avoir lieu si les mots ou les phrases n'avaient pas déjà une signification. Ainsi, la description de quelque chose comme une action humaine ne pourrait pas préexister à la question « pourquoi ?» et être considérée comme une forme d'expression verbale qui nous pousserait alors, obscurément, à nous poser la question, à nous poser cette question. Dès lors, donc, dans une perspective anscombienne, sans l'existence d'une convention qui fixe ce dont on parle lorsqu'on parle d'action, on ne saurait identifier une action dans le monde. Ce sont d'ailleurs nos usages du langage et la grammaire de l'action qui fixent, de façon plus ou moins déterminée, ce qui tombe et ce qui ne tombe pas sous cette notion. De même, quand l'absence d'une convention donne sens à un ensemble de signes, cet ensemble de signes n'est que gribouillage et non pas un mot ou une phrase. Comme par exemple lorsqu'un enfant qui ne sait pas écrire fait semblant d'écrire. Donc en l'absence d'une convention donnant à ce qui se passe un certain mouvement, ou même une certaine absence de mouvement, la valeur d'une action, ce qui se passe ne serait pas une action. Ce sont ces usages qui fixent le fait que les mouvements d'une feuille portée par le vent ne sont normalement pas considérés comme une action, tandis que les mouvements des bras d'un chef d'orchestre sont une sorte d'action. D'où l'importance accordée par Anscombe à la question, la fameuse question « pourquoi ?» car la possibilité de demander à quelqu'un pourquoi il fait ceci ou cela suggère que ce qu'il fait peut être décrit comme une action, en vertu d'une convention et non pas de la nature ou de l'essence de ce qui est en question. Je ne souhaite pas donner ici, si tant est que cela est possible, un critère général permettant de déterminer ce qu'est une action ou ce qui doit ou peut compter comme une action. Je vais simplement noter ce point. Lorsqu'Anscombe dit qu'une même action peut avoir plusieurs descriptions, elle n'entend pas montrer qu'il existe une certaine entité singulière à laquelle on peut rattacher toutes ces descriptions. Ce qu'elle vise, c'est l'idée que j'ai déjà évoquée plus haut, selon laquelle, si on prend une action donnée, par exemple A actionne la pompe, alors dans certaines circonstances données, éventuellement déterminées a posteriori, par exemple après la mort des habitants de la maison, cette action consistera à empoisonner les habitants de la maison. Il y a bien entendu un lien de cause à effet entre l'alimentation de la maison en eau empoisonnée et la mort par empoisonnement de ses habitants. Il y a donc bien une contrainte de ce qui se passe sur la façon dont on décrit l'action considérée. Cependant, ce ne sont pas les faits eux-mêmes, indépendamment de toute description, qui permettent d'identifier l'actionnement de la pompe comme étant en même temps un acte d'empoisonnement. Ce qui permet de concevoir ces deux descriptions comme les descriptions d'une même action, plutôt que comme deux événements distincts, éventuellement liés par une relation de causalité, ce sont les circonstances alliées au fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler notre grammaire de l'action. Caractériser ce qui se passe comme une action d'empoisonnement, ce n'est pas simplement identifier un événement indépendant et unifié et le nommer ou l'étiqueter selon sa nature, mais c'est envisager la scène sous une certaine description. Être l'action de faire X ne dépend pas simplement de ce qui se passe, mais de tout un ensemble de données normatives, contextuelles, relatives à l'histoire de ce qui se passe et à ce que l'agent ou celui qui l'envisage sait de la situation, par exemple. Donc ce sont tout cet ensemble de données normatives et contextuelles qui font que cette action sera l'action de faire X et pas Y, ou qui font même que X sera une action ou non. D'une certaine façon, toute description d'action renvoie à une sorte de petit scénario qui légitime la qualification de ce qui se passe comme étant une action. Dès lors, si on décrit ce qui se passe dans la petite mise en scène de l'homme qui pompe en termes physiologiques, par exemple, ou en termes de relations causales entre des phénomènes physiques, on sort du domaine de la description de l'action. De fait, on ne décrit généralement pas les comportements humains de la même façon que nous décrivons ce qui se passe. « What happens ?» la description est essentielle à l'action dans la mesure où tout événement sous une certaine description ne compte pas nécessairement comme une action. La réalité de l'action comme action de faire X ou Y réside principalement dans le langage. On ne peut identifier une action comme telle en dehors d'une description donnée. Il n'y a pas de procédure permettant d'identifier, de compter quelque chose comme une certaine action indépendamment d'une description. Dans la mesure où une action n'est pas une entité, un objet en soi unifié ou une catégorie prédéterminée qu'on aurait nommée, mais c'est un objet construit par nos usages linguistiques. Ainsi, contrairement à ce que suggère l'ontologie davidsonienne de l'action, action ne désigne pas une catégorie d'objets qu'on pourrait compter dans le monde, indépendamment d'un critère supplémentaire nous permettant de déterminer de quelle action on parle. Je cite un Scambanbo. Ni action ni événement ne sont d'une grande utilité comme dénombrables. Elle dit count noun. Mais beaucoup de dénombrables s'appliquent aux actions et aux événements, par exemple mort, baiser, explosion. La même chose vaut pour les objets matériels ou les choses. On ne peut répondre à la question combien de choses y a-t-il dans la pièce, à moins d'en spécifier le contexte. Être dénombrable ou indénombrable n'est pas, comme dirait Frege, une propriété des objets. Et être un acte ou être un événement n'ont aucun caractère curieux qui justifierait l'érection de principes d'individuation inédits qu'on n'appliquerait jamais à des coups d'épée ou à des dîners. En effet, pour compter des objets, des événements ou des actions, on a besoin de déterminer quels objets, quels événements ou quelles actions on compte. Et pour déterminer si on a affaire à une même action sous différentes descriptions, il faut d'abord identifier cette action par une de ces descriptions et voir si dans ce contexte, faire X, actionner la pompe par exemple, revient à faire Y, empoisonner les habitants. Mais si, comme le suggère Anscombe, identifier une action consiste à pouvoir en donner une description en tant qu'action, est-ce qu'on ne tombe pas alors dans l'excès inverse, qui consistera à penser que rien n'aurait été une action si le langage humain n'avait pas existé ? Et est-ce que nous ne sommes pas en train de dire qu'une simple description ou catégorie linguistique permet de fixer l'essence des choses ? Et on retrouve ici l'objection d'idéalisme linguistique qui est communément faite à Wittgenstein, à propos notamment de l'idée selon laquelle l'essence est exprimée par la grammaire. Autrement dit, l'idée selon laquelle nos usages du langage et non pas la nature des choses elles-mêmes fixeraient l'essence des choses. Et il me semble que c'est à ce type d'objection, d'une certaine façon, que Davidson tente d'échapper. Donc, prenons l'exemple choisi par Anscombe dans son article « The question of linguistic idealism », pour illustrer brièvement la façon dont on peut maintenir la relation essentielle entre action et description sans tomber dans l'idéalisme linguistique et sans retomber sur une position ontologique de type davidsonienne, qui s'apparenterait à une sorte de réalisme empiriste. Donc, considérons le mot « cheval ». D'une certaine façon, ce mot a le sens qu'il a dans la mesure où on a fixé conventionnellement qu'une certaine catégorie d'objets ayant des caractéristiques physiques et physiologiques particulières tombe sous ce concept. Il y a bien dans le monde un certain nombre d'individus possédant réellement des caractéristiques bien définies en commun et qui tombent sans équivoque sous ce concept. Or, il eût été parfaitement concevable que si nos conventions eussent été différentes, nous ayons eu un autre concept de cheval, incluant par exemple les ânes. Ou encore, nous aurions pu avoir un concept beaucoup plus étroit de cheval, n'incluant par exemple que les chevaux au pelage blanc. Donc que nos catégories linguistiques varient ne fait en ce sens pas varier l'état du monde. Cependant, à supposer que notre concept de cheval eût pu être différent, ce que nous pourrions dire sur ce qu'est un cheval, sur ses propriétés physiques et physiologiques, dépend largement de ce que nous comptons comme étant un cheval. Or, ce que nous comptons comme étant un cheval dépend non seulement de nos conventions, mais aussi d'un certain contexte. Par exemple, un cheval de bois peut dans un jeu compter comme un cheval, mais peut-être pas aux courses. Dans la mesure où notre concept de cheval aurait pu fonctionner autrement, sans pour autant que cela change l'état du monde, on doit se détacher de l'idée que la catégorie cheval serait une catégorie prédéterminée qui préexisterait à notre concept de cheval, même si, d'une certaine façon, c'est la façon dont sont les choses qui nous permet de décider dans un contexte donné et selon un objectif donné, si tel ou tel objet compte ou non comme un cheval. Cheval, donc, ne fonctionne comme un dénombrable que dans un contexte donné et selon un objectif donné. Si on me demande de compter les chevaux dans l'écurie et qu'en plus de 3 chevaux, il y a un cheval de bois, Je ne le compterai pas si, par exemple, on m'a demandé de compter les chevaux afin de savoir s'il y en avait suffisamment pour que chacun en prenne un pour aller en promenade. Donc, dans la mesure où le sens de nos concepts est fixé par un usage et par des conventions, on peut généraliser cette idée à l'ensemble de nos concepts et expressions, y compris à la catégorie de l'action. Ainsi, ce qui va compter comme une action dépend de nos conventions et de nos usages. Mais ce n'est pas pour autant que la réalité ne contraint pas ce qu'on est en droit ou non de qualifier d'action, dans un contexte donné et selon un objectif donné. Cependant, la notion d'action se heurte à une difficulté supplémentaire, qu'on a vu. Contrairement au nom cheval, le nom action ne désigne pas un objet matériel. Mais d'une certaine façon, la catégorie de l'action n'est pas moins entièrement déterminée par nos conventions que la catégorie cheval. Simplement, si l'on conçoit qu'une action doit être dénombrable de la même façon qu'un cheval est dénombrable, on tombe dans les difficultés métaphysiques auxquelles Davidson se trouve confronté et qui consistent à tracer les limites ontologiques de l'unité action. Même si pour dénombrer des chevaux, il me faut aussi, bien sûr, connaître le contexte et l'objectif de cette activité. S'agit-il, par exemple, de vérifier que toutes les pièces d'un jeu d'échecs sont bien là, ou de voir si tous les cavaliers du tiercé sont bien rentrés aux écuries. Ainsi, l'action ne peut fonctionner comme un dénombrable en dehors d'une spécification supplémentaire qui consiste dans une de ces descriptions, dans un contexte donné. Pour dénombrer, on a toujours besoin de spécifier un contexte et une unité à partir de laquelle on dénombre. Dans le cas de l'action, on ne peut créer cette unité qu'en invoquant une certaine description, mais ceci ne conduit en aucun cas à affirmer que ce qui se passe ne contraint pas la façon dont on peut ou doit parler des choses. Au contraire, parler d'action est indissociable des pratiques humaines. Je vous remercie.